C'est un peuple sans terre qui se rappelle à notre existence à chaque fois que l'Iran est au cœur de l'actualité. La diaspora iranienne, des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui continuent de cultiver la langue, la culture, la vitalité iranienne à distance, loin de leur pays où un régime qu'ils exècrent les empêche de revenir depuis 45 ans. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'un de ces illustres représentants, Dr Sayed Azmayesh. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Alors je dis docteur, mais en fait je devrais dire comme en allemand docteur, puisque vous êtes titulaire d'un double doctorat de la Sorbonne en théologie et histoire du droit et de l'Université de Lyon en religion comparée.
Exactement.
Vous avez quitté l'Iran en 1976, avant la révolution islamique.
Exactement.
Déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ?
Oui, parce que pour continuer mes études au niveau de doctorat ici en France. Oui, et puis à ce moment-là, quand j'étais là, d'un seul coup, Khomeini il est venu et puis il y avait l'histoire de la révolution et j'ai préféré d'y rester.
Et pourquoi ici. Vous ne vouliez pas faire vos études là-bas ?
J'ai fait l'étude de droit, et droit le droit iranien à l'époque du Shah, le droit pénal civil. C'était la traduction de code napoléonien de la France.
Du code napoléonien,
oui.
Ah oui.
Donc c'était pour ça que la plupart des étudiants en droit, ils finissaient leur doctorat ici en France. Ils
D'accord.
Ici. C'était pour ça.
Donc vous étiez déjà en France.
Oui.
Et pourquoi c'était impossible pour vous de retourner après le
C'est-à-dire que j'avais étudié cette idéologie fanatique des frères musulmans, etc., dont Khomeini il faisait partie. C'est-à-dire, pour moi, Khomeini il faisait partie de cet ensemble de fanatiques qui étaient contre modernité et ils étaient anti-occidentaux, grosso modo. Et puis, ils étaient nécessairement antisémites.
D'accord.
Et puis, ils voulaient camoufler leur idéologie derrière le nom de la religion. Et puisque moi, j'ai commencé à étudier le Coran, à apprendre le Coran par cœur, et puis étudier le Coran à partir de l'âge de 5 ans avec mon grand-père.
Oui.
Donc, plusieurs fois, j'ai vu plusieurs versets coraniques dans lesquels la Terre Sainte, dans le Coran, était promise à des Bani Israël, dans le Coran, selon le Coran, selon plusieurs versets coraniques.
Donc aux Juifs.
Les Juifs.
Bani Israël, oui.
Oui, c'est-à-dire les Children of Israel.
Voilà.
Et puis, donc, et que dans le Coran, il y a 253 versets. Avec beaucoup de respect envers le peuple juif, etc., comme vous savez. Donc, cette idéologie me semblait très bizarre, l'idéologie des frères musulmans et de Khomeini, qui n'avait pas du tout de base dans les versets coraniques, mais c'était basé sur des révoyotes, c'est-à-dire des paroles attribuées au prophète Mohammed.
C'est un peu l'équivalent chez nous du Midrash,
oui.
De la littérature rabbinique.
Exactement.
C'est-à-dire de choses qui
Exactement.
Ont été inventées, commentées.
Oui, inventées par des théologiens, par
D'accord.
la clergé, qui n'avaient rien vraiment à voir avec les enseignements coraniques. Alors, quand vous êtes musulman et vous êtes soufi, et parce que dans le soufisme, il n'y a pas de différence entre les religieux et les religions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obéissance envers Dieu. Dieu n'est pas considéré comme un être en une position verticale
ah bon?
Envers laquelle il faut avoir des obéissances. Dans le soufisme, l'obéissance est placée par l'amour.
Ah, ça c'est un point important. C'est
oui.
Il faut préciser que vous êtes soufi.
Oui, absolument.
Vous êtes issu d'une famille soufi
oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Le soufisme est un courant de l'islam qui n'est ni chiite ni sunnite.
Absolument.
Vous
absolument.
Pouvez nous expliquer un peu
oui,
ce que c'est.
Oui, c'est-à-dire le soufisme, on peut dire que ça préexistait l'existence de l'islam. C'est-à-dire c'est un mouvement gnostique qui préexistait. Dans le Coran, il y a beaucoup de respect pour les sages de Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, c'est-à-dire les gens des livres.
Ah oui.
Des livres.
Oui.
Donc des livres descendus du ciel, que ce soit des rabbins juifs ou bien que ce soit des patriarches chrétiens. Et puis c'est écrit dans le Coran que les enseignements du prophète Mohammed est à la suite des enseignements d'autres maîtres mystiques qui préexistaient, etc. Donc le soufi n'est pas quelque chose qui a été créé après l'islam.
C'est pré-islamique, en fait.
Exactement, d'accord. Un courant qui préexistait l'islam.
Mais qui s'est quand même ensuite intégré dans... C'est-à-dire ça fait partie du monde musulman, quand même,
ça le fait partie du monde musulman, absolument. Ça fait partie du monde musulman.
Vous reconnaissez Mohammed comme prophète ?
Absolument, d'accord. Absolument, ouais. Absolument. Et le Coran, etc.
D'accord.
Mais avec la vision du monde des soufis, il y a plus d'ouverture envers des enseignements, des leçons que vous pouvez apprendre auprès des livres religieux, des hébreux, des juifs, des chrétiens,
des
mandans, des zoroastriens. C'est-à-dire, un soufi, selon le soufisme, un soufi est quelqu'un qui va commencer un voyage de son état. Première, et cette étape première, c'est la conscience individuelle. Et durant ce voyage, il va atteindre une destination finale qui est la conscience globale, universelle, en passant par la conscience collective.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, c'est comme une goutte qui tombe dans l'océan. C'est être anéanti dans Dieu, c'est-à-dire non seulement rencontrer la lumière de Dieu, mais parce que Dieu est la lumière, donc atteindre la lumière de Dieu, c'est-à-dire d'être fini en Dieu. Donc c'est l'amour.
Donc il y a une dimension mystique dans tout ça aussi.
C'est mystique, absolument. D'accord. C'est mystique.
Est-ce que les soufis sont persécutés par le régime iranien?
Oui, c'est ça justement. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que... Finalement, ici en France, j'ai commencé à défendre, les droits de diversité religieuse et ethnique. C'est-à-dire, je ne dis pas minorité parce qu'il n'y a pas de majorité religieuse en Iran. Mais il y a une diversité en Iran, ethnique et religieuse. Et puis, parmi ces diversités, il y a la communauté Bahaï, la communauté juive, la communauté chrétienne, et également les soufis qui sont musulmans, mais ils sont persécutés parce qu'ils ont une autre version de compréhension des textes coraniques, etc. Ils sont plus persécutés que les autres, disons, diversités.
Donc là, ça fait 50 ans que vous êtes en France et que, on va y revenir un peu plus tard, vous militez notamment pour les droits de l'homme, leur application en Iran, pour des réformes profondes. Exactement. Pour revenir à des choses très concrètes, comment vous réagissez là depuis quelques jours à cette attaque massive américano-israélienne contre le régime ?
Oui, maintenant le monde entier découvre que ce problème avec ce régime n'est pas limité à l'intérieur de l'Iran ou limité comme un problème régional. C'est international, c'est global, c'est-à-dire c'est une idéologie expansionniste. Pour de vrai, moi, j'ai des éléments à penser que cela n'a rien à voir avec le chiisme ou le sunnisme. Mais c'est dû à un mélange de la magie noire, vraiment la magie noire, avec des cérémonies de la magie noire dans l'idéologie de ces mollahs qui sont en train de diriger le pays.
On a le droit de faire ça dans l'islam ? Non.
C'est-à-dire, c'est interdit. C'est interdit, selon le Coran.
C'est de la sorcellerie.
C'est sorcellerie et contre les valeurs religieuses, etc., dans le Coran. Et puis, cela démontre que vraiment, c'est une secte. C'est une secte. Donc, ils font des choses, c'est-à-dire, ils n'ont aucune pitié pour être humain, que ce soit musulman, juif, chrétien. Ils font massacre global. Des petits enfants, etc., etc. C'est incroyable parce que, selon leur vision du monde, c'est autorisé, tout est autorisé. Les gens, ils sont en train de croiser leurs doigts pour voir la fin de ce régime. Parce que ce régime, c'est anti-modernité, anti-civilisation. C'est vraiment on ne peut pas définir correctement ce régime. C'est pour ça que je dis, parce que dans chaque religion, il y a un respect pour l'humanité, pour l'humanisme, pour être humain. Être humain, c'est le représentant de Dieu dans l'univers.
Cela dit, on entend aussi dire qu'on ne peut pas provoquer un changement de régime uniquement par la guerre. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
C'est-à-dire, on ne peut pas faire changement d'un régime sans, uniquement par la guerre, mais sans avoir la guerre contre ce régime, on ne peut pas atteindre cet objectif.
Ouais.
Parce que, c'est-à-dire, démocratiquement, on ne peut pas changer le régime en Iran. Ça, c'est sûr.
C'est trop verrouillé.
C'est parce qu'ils n'ont pas de pitié.
Admettons que les Américains et les Israéliens parviennent effectivement à détruire tout l'appareil militaire et étatique de ce régime. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est la grande question que tout le monde se pose.
Oui, mais ce qui est très important, c'est la diversité qui existe en Iran. C'est-à-dire, une seule personne ne peut pas, cristalliser, disons, le remplaceur, c'est-à-dire celui qui succède ce régime. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un ensemble, une réunion de diverses ethnies, religion, etc.
C'est ce qu'on appelle la démocratie.
C'est la démocratie, absolument.
Et ça, c'est réalisable dans l'Iran, dans un Iran post-Mollah ?
Absolument, c'est réalisable. Oui. Parce que durant ces 47 ans d'existence de ce régime, etc., les gens en Iran, le peuple, est bien développé, vraiment développé. C'est-à-dire, même les femmes, vous avez vu que la résistance féminine devant ce régime pour ne pas porter le voile obligatoire. C'était incroyable. Et maintenant, en Iran, vous voyez moins de femmes voilées qu'ici en France.
Vous avez créé une association, vous êtes fondateur d'une association qui s'appelle Iran Front, le front iranien, basé à Londres. Et vous m'avez dit qu'il y a 3 ans, l'un de vos disciples, qui s'occupe aussi de cette association, est allé en Israël et a parlé à la Knesset.
Exactement. C'est-à-dire, on lui a donné la parole pour donner un discours au Knesset. C'était pour la première fois qu'un Iranien a donné vraiment un discours au Knesset. C'était très important. Et puis, il a expliqué le problème des Iraniens, etc., envers ce régime. Il a expliqué que le peuple iranien veut vraiment changer la situation pour établir une démocratie, un système séculaire démocratique en Iran, mais il est incapable parce que le régime est un régime sanguinaire. Donc, c'est nécessaire une intervention de force pour forcer ce régime.
Donc, il a demandé une intervention militaire.
Absolument.
Donc, il a été entendu finalement.
Il a été entendu, mais c'est-à-dire c'était très important parce que il a casser le tabou pour la première fois. C'était un tabou, c'est-à-dire de demander au gouvernement israélien de faire quoi que ce soit en Iran.
Oui, parce que même parmi les Iraniens hostiles au régime, et ils sont très nombreux, il y a effectivement quand même ce tabou de « on déteste le régime, mais laissez-nous nous occuper nous-mêmes de nos affaires ». Ils n'appellent pas, ou très rarement, à une intervention militaire.
Maintenant, c'est changé complètement parce qu'après ce massacre de mois de janvier, le 7 et le 8 janvier, durant lesquels il y avait à peu près 400 000 personnes endommagées, c'est-à-dire qui sont touchées par les balles sur leur visage, etc.
Donc, mort ou blessé.
Mort ou blessé. On ne peut pas entrer en négociation avec ce régime, c'est inutile. C'est la défense légitime. C'est ce que M. Macron, la nuit dernière, il a dit. Il faut défendre nos intérêts parce que nous sommes attaqués par les missiles iraniens. Donc, ils lancent leurs missiles partout. Et s'ils étaient dotés de l'arme nucléaire...
Ils le feraient.
Ils n'hésitent plus, absolument.
Et les Iraniens avec lesquels vous communiquez, ils partagent votre enthousiasme pour cette guerre ?
Absolument, oui. Et la plupart d'entre eux, bien sûr.
Je voulais terminer par je profite de discuter avec un théologien aussi. Il y a quelque chose qu'on comprend rarement en Occident, et y compris chez les Juifs, c'est le bien fondé de l'hostilité extrême du régime iranien envers Israël. Parce qu'il n'y a pas de frontière commune. Voilà, on peut, il n'y a même pas la Libye des Palestiniens, c'est très loin. Et pourtant, c'est central dans le discours. des mollahs. Sur quoi ça se base, cette hostilité à Israël, dans le chiisme, ou dans leur chiisme?
Oui, c'est-à-dire cela n'a rien à voir avec le chiisme, etc., etc. C'est-à-dire, selon la théologie chiite, les chiites sont interdits de se mêler aux affaires gouvernementales pendant la période d'occultation majeure, parce qu'ils pensent que le 12e imam est en période d'occultation.
Le 12e imam.
Le 12e imam. Et ils pensent que,
l'imam caché.
C'est l'imam caché. Oui. Et de constituer un gouvernement est l'affaire d'un être infaillible. Okay. C'est-à-dire, c'est les chiites qui... Les chiites, ils pensent qu'uniquement il y a 14 personnes créées par Dieu qui sont des êtres infaillibles. C'est le prophète, sa fille Fatima, et les 12 imams.
D'accord.
Et 12e imam, c'est l'imam caché.
D'accord.
Et pendant cette période de l'occultation majeure, les chiites, ils peuvent vivre dans n'importe quelle société sans se mêler des affaires gouvernementales. Donc, c'est clair.
Ça, c'est dans la théologie chiite.
C'est dans la théologie chiite.
C'est le Mahdi. Le Mahdi, c'est le...
Mahdi, exactement.
L'imam caché.
Exactement, exactement. Donc, ils attendent, ils sont dans la période d'attente de la réapparition.
C'est un peu comme les juifs, c'est un peu comme les juifs antisionistes qui refusent l'existence d'un État,
exactement,
parce qu'ils disent c'est Dieu qui doit...
Exactement.
C'est un peu cette...
C'est la même chose.
D'accord.
Exactement.
C'est équivalent.
D'accord. Exactement. Et puis, Khomeini, quand il est venu, il a critiqué, il a mis de côté cette vision du monde. Il dit ça fait 1400 ans que Mehdi est caché, et peut-être que 100 000 ans de plus, il ne vient pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Donc, c'est le gouvernement, c'est l'affaire, c'est constituer un gouvernement, c'est l'affaire de la clergé religieuse à la place de Mehdi. Puisque Mehdi, il n'est pas là, ils doivent, c'est nécessaire pour eux, pour appliquer la loi islamique partout, les furaha, c'est-à-dire la clergé religieuse.
Donc c'est une trahison de la théologie chiite,
en fait. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que les gens, moi personnellement, je pense que Khomeini, il a été influencé ou bien il a été, c'est-à-dire cette idée a été inspirée de l'idéologie de frères musulmans.
D'accord. C'est-à-dire qui sont pourtant des sunnites.
Qui sont sunnites, ouais, absolument.
C'est des ennemis, même.
Oui, c'est-à-dire théoriquement.
Oui, mais on peut être influencé par ces ennemis.
Oui, mais maintenant, comme vous voyez, c'est-à-dire la plupart des gens qui sont payés par le gouvernement, par les mollahs, etc., ils sont sunnites.
Le Hamas.
Voilà, ouais, exactement. Donc, il n'y a pas de sunnichi. C'est un front anti-israélien.
L'international du fanatisme.
Exactement.
Et j'avais interviewé une fois un grand professeur israélien spécialiste de l'islam, Meir Baracher. Il m'avait expliqué, moi j'y connais absolument rien, mais il m'avait expliqué que dans la théologie chiite, il y a aussi cette idée que les chiites seraient les vrais juifs et que les juifs sont des imposteurs.
Certains musulmans, etc., ils disent que le vrai Bani Israël, les enfants d'Israël, de Jacob, etc., sont les vrais musulmans.
Voilà.
Les vrais musulmans sont les vrais children of Israël.
Comme l'Église l'a fait avec Verus Israël, en fait.
Exactement.
C'est la théologie de la substitution.
Exactement.
Ah oui. Exactement. Il y a la même chose du côté musulman.
Exactement. Okay. Exactement.
Et la place de Jérusalem dans tout ça, Al-Quds, parce que les gardiens de la Révolution, ils se réfèrent en permanence à Jérusalem.
Oui,
quelle place ça joue dans le chiisme,
C'est-à-dire, c'est-à-dire dans le Coran, c'est marqué Moïse, quand il a acheminé le peuple d'Israël, les Juifs, de l'Égypte vers le territoire, disons, de Canaan à cette époque-là. Il dit au peuple, entrez sur cette terre sainte dont Dieu a écrit pour vous la propriétaire. Donc, c'est écrit dans le Coran. C'est-à-dire, l'acte de propriété de cette terre sainte a été écrit dans la divinité, par Dieu, pour le peuple juif. C'est écrit dans le Coran. Et pas une seule fois, plusieurs fois. C'est pour ça qu'il n'applique pas le Coran, les versets coraniques. c'est une trahison envers le Coran. Quand ils lancent leur missile sur la Terre Sainte, qui a été décrite comme la Terre Sainte. Alors, il faut, quand ils envoient leur missile sur la Terre Sainte, c'est-à-dire qu'ils sont en train de trahir la sainteté de ce, de ce lieu.
Décrite par le Coran.
Décrit par le Coran.
Vous-même, vous avez déjà été en Israël ?
Non, pas encore.
Bon, si le régime tombe,
bien sûr,
ce sera peut-être plus facile.
Absolument.
Merci beaucoup, docteur Sayed Azmayesh. Merci beaucoup. Merci. Et j'invite les gens à se renseigner sur votre association. Et
avec plaisir. Avec plaisir. Merci
de consulter les contenus qui y sont proposés.
Avec plaisir.
Merci, et merci à vous pour votre écoute.